Bonjour et bienvenue sur Communautaire, la communauté des initiatives saines et éco-responsables. Je suis Pauline Ebel, entrepreneur à impact. Avec Communautaire, je vous propose de rencontrer ensemble des acteurs engagés pour la planète et pour la santé et de vous faire découvrir toutes les initiatives menées à titre entrepreneurial, individuel ou bénévole, visant à produire ou à consommer plus durablement. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Communautaire. Aujourd'hui, j'accueille Quentin de Mauroy, cofondateur de Tranquille Émile, une marque de vêtements made in Auvergne-Rhône-Alpes qui cultive l'art de la fabrication française et qui, en plus de s'engager en faveur des circuits courts et du savoir-faire textile hexagonal, adopte aussi une démarche RSE. Bonjour Quentin, tu vas bien ?
Bonjour Pauline, ça va et toi ?
Très très bien, merci. Alors Quentin, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Tranquille Émile ?
Eh ben moi donc je suis Quentin, comme tu l'as bien présenté, et Tranquille Émile, nous sommes une jeune marque de vêtements et accessoires véritablement fabriqués en France. Et le mot véritablement, comme je dis souvent, prend tout son sens, dans le sens où l'intégralité de nos produits sont fabriqués en France. Chez Tranquille Émile, pas de double collection avec une collection fabriquée en France et une collection qui viendrait d'ailleurs. Non, l'intégralité de nos produits, de nos vêtements, de nos accessoires sont fabriqués dans l'Hexagone et toutes les étapes de fabrication sont faites en France. C'est le postulat qu'on avait de départ avec Olivier, de se dire que sans concession, tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France.
Oh, super. Et alors, tu n'es pas tout seul dans l'aventure. Tu parlais d'Arnaud Olivier tout à l'heure, mais je crois qu'il n'est pas le seul.
Oui, donc il y a notamment moi et Olivier qui sommes aux manettes de Tranquille Émile, qui avons rejoint du coup l'aventure il y a 3 ans. Pour la petite histoire, ça reste une aventure familiale parce que Olivier est à la fois mon oncle et à la double voire triple casquette de parrain et président de Tranquille Émile. Donc c'est une chouette aventure, familiale, humaine. Et puis c'est vrai qu'on a souvent parfois la petite angoisse, la petite peur au ventre de se dire tiens, on va travailler en famille ou on va travailler avec des amis. Et finalement non, c'est une aventure qui est extraordinaire. Et puis on adore pouvoir mélanger à la fois du perso et du pro dans ce qu'on fait. Donc ce format-là nous convient bien en tout cas.
Super. Mais du coup, vous êtes en trio pour créer ce projet ?
Alors, le fondateur, Samuel, lui, n'a plus de rôle opérationnel au sein de Tranquille Émile. Donc, on va dire qu'on est plutôt en duo. Aujourd'hui, l'équipe est constituée de 4 personnes, donc 2 personnes supplémentaires en plus d'Olivier et moi-même. L'idée, c'est de pouvoir maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur par le biais de nos compétences. Et c'est pour ça que chez Tranquille Émile, on ne s'adresse pas simplement à un atelier pour lui dire je veux 500 suites bleu marine avec une broderie à tel endroit. La façon dont nous avons créé justement l'équipe autour de nous, c'est de pouvoir maîtriser l'intégralité de la chaîne de production, ce qui veut dire que nous, on va parler directement au tricoteur, on va parler au teinturier, on va parler à l'atelier de confection, au brodeur, au fournisseur d'étiquettes, qui nous permettent de valider d'une part que chaque fournisseur correspond à nos valeurs et à nos engagements, et également de pouvoir accéder au grade de qualité que l'on souhaite et de ne pas avoir un produit déjà tout fait ou presque sous marque blanche, mais vraiment d'avoir un produit Tranquille Émile qui est un produit unique et qui correspond à nos valeurs.
Très bien. Et alors, quel a été le jour zéro ? Parce que bon, c'est une aventure familiale, donc vous connaissiez auparavant, mais qu'est-ce qui a motivé le fait de mener ce projet ensemble ?
Alors c'est assez marrant et c'est un jour, effectivement, tu le dis bien, un jour zéro, c'est un peu un jour unique. On était vraiment sur un schéma complètement différent à ce moment-là avec Olivier. C'est-à-dire que moi j'avais une première expérience dans le textile, plutôt liée au textile sportif d'ailleurs, notamment chez Adidas et Reebok, et une dernière expérience avec 6 mois passés en Chine. Et Olivier, lui, de son côté, était un petit peu à la croisée des chemins de l'entrepreneur, entrepreneur dans le monde de la santé. Il avait besoin de se réinventer, de se rebaser et pareil, de se remettre sur un projet pour remettre du sens et de l'humain au milieu, au centre de ses préoccupations. Et c'est lui, en fait, qui m'a appelé. C'est Olivier qui un jour m'appelle, prend quelques nouvelles et puis me dit j'ai vu une petite marque, Tranquille Émile, qui a créé un petit univers qui me semble sympathique, qui cherche à trouver un nouveau souffle. Par contre, moi, très clairement, je me sens pas forcément de le faire tout seul. Est-ce que ça te dirait de me rejoindre sur l'aventure et puis qu'on voit tous les deux ce qu'on peut faire en alignement justement à nos valeurs, à nos engagements et à ce qu'on veut mettre dans le dans notre vie professionnelle. Et du coup, le jour zéro, c'est ça. C'est Olivier, mon oncle, mon parrain, qui m'appelle et qui me dit « Salut Quentin, j'ai vu un projet. Faudrait qu'on en discute parce que ça m'intéresserait. J'aimerais bien te le présenter. » Et puis au final, ben, ça s'est plutôt bien passé parce que 3 ans après, là tu vois, on est en décembre 2021, ça fait 3 ans qu'on a repris Tranquille et Mille. On souffle notre troisième bougie et puis on a un fonctionnement qui nous plaît bien à tous les deux. Et puis surtout, on arrive à, comme on le souhaitait au départ, à remettre du sens dans ce qu'on fait au quotidien.
C'est super. Et ça veut dire que donc, c'était une société qui existait déjà auparavant. Donc finalement, le nom Tranquille Emile existait déjà. Et vous êtes vraiment inscrit en cette continuité. C'était déjà aussi du Made in France et du 100% local.
Oui, c'est exactement ça. Et c'était le sens de la reprise. Tranquille Emile était une toute petite marque qui faisait bien évidemment fabriquer en France, qui faisait des produits basiques. Basiques, pas dans le sens péjoratif, basiques dans le sens basique du dressing, avec notamment des t-shirts, des sweats et des sweats à capuche. Nous, l'idée sur le papier, la première idée qu'on s'est dit avec Olivier, c'est qu'on voulait proposer un dressing complet du fabriqué en France. Et non pas simplement du basique, mais pouvoir justement élargir, approfondir cette gamme et de dire que, par exemple, toi, Pauline, aujourd'hui, tu arrives sur le site de Tranquille Emile, c'est que tu as une volonté d'acheter et de consommer responsable, de consommer Made in France. L'idée, ce serait que tu puisses justement trouver le produit que tu aurais aimé trouver. Donc aujourd'hui, on a élargi avec des polos, avec des pulls en coton, également des pulls en laine, avec des casquettes pour les accessoires et des chaussettes. Donc bien sûr, on aura dans tous les cas les goûts et les couleurs, et les gens ne trouveront pas forcément chaussures à leurs pieds. Mais de se dire qu'aujourd'hui, on propose un dressing plus complet, et que si aujourd'hui tu as envie de consommer responsable chez Tranquille Emile, c'est possible et tu peux trouver globalement de plus en plus de produits.
Oui, parce que souvent dans la mode responsable, on trouve ce que tu disais, des bons basiques, et effectivement c'est pas péjoratif, c'est juste en fait des produits qui sont les produits quotidiens en fait, ce qu'on a envie de porter tous les jours, qui font partie des indispensables, je dirais, du dressing, comme souvent les t-shirts ou les sweats, et aussi parce qu'ils nécessitent peut-être moins de main d'œuvre, et donc c'est peut-être plus facile à concevoir en France pour tenir un target price acceptable. Mais du coup, c'est peut-être plus compliqué d'avoir accès à un dressing complet, comme tu le dis si bien, et de retrouver finalement tout ce qu'on pourrait avoir envie d'avoir dans son placard, dans un seul et même endroit.
C'est exactement ça, et tu soulèves justement on va dire une limite justement du fabriqué en France, c'est que beaucoup de nos savoir-faire finalement ont été détruits ou tout du moins minimisés ou sont partis ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui lorsqu'on veut produire un basique, effectivement, c'est pas très compliqué. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'ateliers qui peuvent le faire, et ça reste assez simple. C'est-à-dire que nous, chez Tranquille Emile, très clairement, on n'a pas réinventé le monde du t-shirt. On n'a pas réinventé le monde du sweat. Nos t-shirts, nos sweats sont des t-shirts et des sweats au même format que vous pourrez retrouver n'importe où. Nous, par contre, justement, la patte que l'on va apporter chez Tranquille Emile, c'est de pouvoir remettre du sens dans la consommation, dans la production, et ensuite d'aller plus loin. Et c'est là où on a une vraie carte à jouer dans le Made in France, c'est de se dire que le Made in France, c'est pas simplement des t-shirts et des sweats. On sait faire encore plein de choses, on savait faire encore plein de choses. L'idée, c'est de pouvoir regratter cette petite couche qui cache les savoir-faire que l'on a encore dans notre région ou en France, et de se dire qu'il y a plein de belles choses qu'on peut faire. Mais l'idée, c'est de pouvoir les remettre en lumière, et c'est là où les marques comme Tranquille Emile ont une vraie carte à jouer en travaillant de pair et en collaboration avec les ateliers, avec parfois des générations qui sont plus proches de la retraite que du début de leur parcours professionnel, mais d'avoir une vraie passation, d'avoir une transmission en tout cas de leur savoir-faire, parce qu'ils savent faire des choses. L'idée, c'est de pouvoir nous les challenger en tant que marque. C'est sûr que si nous, on ne va pas de l'avant chez Tranquille Emile pour proposer de nouveaux produits, comme on a sorti par exemple l'année dernière la première doudoune qui est fabriquée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, si on n'a pas de marque aujourd'hui pour insuffler cette nouvelle énergie, c'est pas l'atelier de lui-même qui dira tiens, moi je dois relancer ce savoir-faire. Ils ont besoin de donneurs d'ordre comme nous qui ensuite allons transmettre justement toutes les données commerciales, marketing aux consommateurs, et qu'ils puissent comprendre pourquoi on a fait ce choix d'une fabrication française.
Oui, parce que l'atelier, de toute façon, lui, ne va pas commercialiser les produits, donc il a besoin effectivement de produire pour le compte de quelqu'un. Donc il va répondre à une demande, il ne peut pas non plus lui-même insuffler un mode de production qui soit un peu différent.
C'est là où effectivement chacun doit avoir ses compétences, et on ne doit pas se marcher dessus. Très clairement, moi je suis pas couturier, je peux pas travailler dans un atelier et j'ai aucune compétence aujourd'hui qui me permettrait de travailler dans un atelier, que ce soit comme petite main ou comme chef d'atelier. Par contre, moi aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de pouvoir développer nos engagements, de pouvoir sélectionner les matières avec lesquelles j'ai envie de travailler et j'ai envie de produire, j'ai envie de construire un vêtement fabriqué en France et responsable, et ensuite pouvoir mettre en avant cet engagement et expliquer aux consommateurs pourquoi aujourd'hui il n'est plus normal d'acheter un t-shirt, par exemple 5 euros, qui serait fabriqué à l'autre bout du monde. Et l'atelier, main dans la main avec Tranquille Emile, de dire « Ok Quentin, ok Olivier, on veut travailler avec vous et on veut également, à notre échelle, produire pour une consommation plus responsable dans le textile et dans la mode. »
Super intéressant. Et à ton avis, le savoir-faire français, il était un peu perdu ou simplement il n'a pas été suffisamment exploité?
C'est un peu des deux. Après, moi, j'ai envie de te poser une question également pour te challenger. Est-ce qu'on a un vrai savoir-faire dans le t-shirt? Est-ce que finalement, faire un t-shirt, on peut le faire aussi bien à droite, à gauche, loin ou tout près? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un savoir-faire français, par exemple, lié justement à des basiques? Je dirais que c'est un peu justement un contre-pied de dire non, en France, on n'a pas spécialement un savoir-faire du t-shirt. Dire que ton t-shirt, tu vas trouver un t-shirt de qualité qui peut être fabriqué à l'autre bout du monde et il n'y aura aucun problème là-dessus. Par contre, nous, aujourd'hui, plus qu'un savoir-faire, c'est une consommation responsable, une production responsable. Alors, bien sûr que l'atelier qui va employer des enfants à l'autre bout du monde, il saura faire un t-shirt, il n'y a aucun problème. Par contre, est-ce que toi, justement, subvenir aux besoins de ce système-là est quelque chose que tu as envie de soutenir aujourd'hui? Et c'est là où on peut se dire que fabriquer en France, ça me permet d'une part de m'assurer que mon vêtement respecte les droits de l'homme, les droits du travail. D'autre part, qu'en termes de consommation d'énergie, c'est un atelier qui va être principalement relié soit à de l'énergie renouvelable avec de l'énergie verte, soit de l'énergie nucléaire, mais en tout cas pas de l'énergie au charbon. Donc ça, on n'en parle pas également énormément, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est que le faire fabriquer ailleurs, c'est pas simplement que le vêtement n'est pas éthique, c'est qu'en termes d'empreinte carbone, plus que le transport, le fait que toute la chaîne de production soit faite par une énergie qui serait carbonée ou qui serait au charbon, c'est ça aujourd'hui qui n'est pas correct pour l'environnement.
Et tu parlais de la main-d'œuvre tout à l'heure, il me semble que vous participez à l'intégration des personnes en situation de handicap, c'est exact ?
C'est exactement ça. Et là, on en revient également, on peut remettre en parallèle notamment le parcours d'Olivier, le parcours dans la santé. On pourrait se dire, pourquoi reprendre une marque de vêtements Made in France alors qu'on est entrepreneur dans la santé? Mais au final, ça reste deux métiers sur lesquels, sans la fibre humaine, on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, faire du fabriqué en France, c'est très bien. Le faire avec des matières responsables, c'est encore mieux. Mais pouvoir se recentrer justement sur l'humain, de pouvoir remettre l'humain au centre de nos préoccupations, c'est également 100% de nos valeurs et des engagements qu'on a voulu prendre avec Tranquille Emile, qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près, en fonction des saisons, de 70 à 80% de nos produits qui sont fabriqués soit dans des ateliers adaptés, donc qui emploient généralement entre 75 et 80% de personnes en situation de handicap, soit des ESAT, donc là qui participent également à l'insertion et à un monde avec plus d'inclusion, ou également des ateliers d'insertion qui vont permettre à des personnes qui ont été durablement éloignées du monde du travail à trouver un emploi. Aujourd'hui, on voit, si on prend l'exemple français, on travaille globalement 5 jours sur 7. Avoir un emploi est un gage aujourd'hui d'insertion sociale, de valeur sociale en tout cas, par rapport au regard des autres, et de dire que ces personnes qui peuvent être des étudiants qui n'ont jamais trouvé d'emploi, des personnes qui ont subi un drame physique, familial, psychique ou autre, et ont du mal justement à se réinsérer, et par le biais du textile, et notamment par le biais de notre gamme d'accessoires, comme on a pu faire des petits chouchous avec nos chutes de tissu, des pochettes ou autres, ils ont tout à fait les compétences aujourd'hui de pouvoir s'ajouter à une ligne de production et à se réinsérer par le biais du monde du travail. Et c'est là où moi, ça me fait vraiment justement sourire et c'est ce qui me donne la motivation de se dire qu'on est vraiment sur un cercle vertueux. Je fais produire en France par des personnes qui ont besoin de cet emploi, tout en respectant et en maîtrisant mon empreinte carbone et en permettant aux gens de découvrir justement les savoir-faire de nos régions et les savoir-faire qui ne sont pas mis en avant sur Google, en fait.
Ouais, c'est un engagement qui est vraiment à 360 degrés, pas simplement juste... dire on fabrique local pour soit le plaisir ou simplement on va dire, une communication un petit peu plus green, c'est que c'est un vrai engagement de votre part de travailler sur tous ces sujets-là et une vraie, vraie démarche RSE.
Bah, effectivement, tu as bien répondu et tu as tout dit. Et globalement, on a souvent le double discours, tiens, je fais fabriquer en France, tiens, mon produit est responsable. Mais finalement, c'est la même chose. Parce que comme on disait, le fait de fabriquer en France, d'une part, ça me permet de maîtriser l'intégralité des circuits, ça me permet d'avoir une production locale, donc ça veut dire que le camion, par exemple, qui va nous faire la livraison, il va pas parcourir deux fois le globe.
Tout à fait. Oui, ça, tout est lié, en fait, finalement, tout a du sens, clairement.
On voit en tout cas, par exemple, beaucoup de marques qui pourront dire, tiens, nous, on fait fabriquer notre t-shirt avec du coton bio, mais il est fabriqué à l'autre bout du monde.
Ouais.
Moi, je veux prendre le contre-pied et je vais peut-être dire quelque chose qui va dénoter, mais je préférais à la limite ne pas faire de coton bio, mais le faire en France. Et tout de suite, il serait plus responsable. Parce que aujourd'hui, on sait, et les études ont montré que c'est les étapes de fabrication qui ont une grosse incidence aujourd'hui dans le textile sur notre empreinte carbone. Donc moi, techniquement, je préférais me dire que plutôt que d'aller faire du coton bio à l'autre bout du monde, ton t-shirt, viens le faire confectionner en France. Et ça sera déjà une grande réponse aujourd'hui aux questions environnementales qu'on se pose.
Tout à fait. Et le consommateur n'a pas toujours conscience de cette implication environnementale, cet impact environnemental sur la production d'un t-shirt. Je pense que le consommateur, il sait que le t-shirt, il vient peut-être, parce que l'étiquette l'indique, le made in China, India et autres, mais on n'a pas forcément conscience qu'il faut des litres d'eau pour le produire, que le t-shirt, il a parcouru parfois plusieurs fois le tour de la Terre avant d'arriver chez soi, et que tout l'impact carbone, l'impact sur la pollution, tout cela il est peut-être un peu masqué et justement vous êtes de plus en plus de marques responsables à s'engager envers plus de transparence pour éduquer les consciences et aider à comprendre que oui, il y a un coût derrière tout ça et que on peut raisonner différemment quant à l'achat d'un nouveau t-shirt.
C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle soit le franco-lavage ou soit le greenwashing, sur lequel on vient mettre en avant une étiquette un peu verte, le fait que la matière est bio, le fait que mon t-shirt a été fabriqué dans un atelier qui est certifié, qui respecte les droits du travail dans le lieu où il était fabriqué. Sauf que si l'on sait que ces droits du travail ne sont pas du tout dans le sens des droits du travail français ou européen, il a beau avoir une certification bio, responsable, environnemental là-bas, ça ne correspond pas aux standards aujourd'hui que nous on veut donner et l'élan, l'impulsion qu'on veut donner sur la production. Et c'est là où effectivement le consommateur peut être induit en erreur s'il n'a pas toutes les clés en main, s'il n'a pas plus de transparence des marques, c'est que ça ne suffit pas de dire que mon t-shirt est bio. De la même façon que seule l'appellation bio n'est pas suffisante et qu'il faut pouvoir y apposer une certification ou un label qui va permettre de certifier justement les engagements du bio. Typiquement, je prends souvent l'exemple, aujourd'hui, je vais faire fabriquer un t-shirt au Portugal, très bien, ça sera toujours mieux que l'Asie, et je vais utiliser un coton bio. Mon coton bio, il va venir de Syrie, il va être récolté par des enfants, et possiblement dans un territoire sur lequel il peut avoir des financements occultes. Est-ce que mon t-shirt est responsable ? L'appellation bio, c'est là où on voit que nous, par exemple, on fait confiance sur une certification qui est la certification GOTS, qui permet de s'assurer que notre coton bio respecte des exigences environnementales et également des exigences sociales. Pas de récolte par les enfants et pas de récolte dans les territoires en guerre.
Et au-delà de cette certification GOTS, il y en a d'autres, des labels qui sont qui labellisent les ateliers ou la production.
Alors, il y en a beaucoup de labels et aujourd'hui, on voit qu'il y a presque un flou artistique autour des labels parce que le consommateur ne sait plus au final à quel label se fier parce que les labels peuvent être empilés, l'un n'empêche pas l'autre, etc. Aujourd'hui, si on doit faire, nous en tout cas à notre échelle, chez Tranquille Emile, si on doit mettre en avant quelques labels qui nous permettent, nous, de pouvoir être sûrs soit de l'origine de nos matières, soit du savoir-faire, des compétences de nos ateliers ou autres, ça va être principalement Origine France Garantie, qui est la certification incontournable pour certifier le produit en France. On a la certification Entreprise du patrimoine vivant, qui permet également de certifier un savoir-faire d'excellence, qui globalement se passe de génération en génération. On a également le label France Terre Textile, qui est un peu comme le label Origine France Garantie et qui certifie le produire en France. Et puis après, on a les labels qui vont être liés beaucoup plus aux matières, sur lesquelles nous, ben, comme je disais, on fait confiance au label GOTS et également au Cotex, qui lui vient certifier la partie teinture et le fait que la teinture ne contient pas de produits toxiques pour le corps ou pour l'environnement.
Et tu dirais que ces labels, ils sont indispensables aujourd'hui parce que les consommateurs, vos clients, les clients de Tranquille et Mille, est-ce que ce sont déjà des personnes qui sont engagées dans une démarche environnementale, du coup qui font attention à leur consommation, à consommer plus durable et qui, quelque part, au travers de tous les engagements que vous véhiculez, notamment sur votre site, auraient de toute façon fait un choix responsable, ou au contraire, ces labels sont destinés à convaincre la personne d'après, celui qui n'a pas encore été converti à un autre mode de consommation?
C'est un peu à double échelle. Déjà, les labels sont pas forcément faits juste pour le consommateur, ils sont également faits pour nous. C'est-à-dire que moi, chez Tranquille et Mille, savoir que l'atelier avec lequel je vais travailler va être entreprise du patrimoine vivant, France Terre Textile, Origine France Garantie, c'est un vrai plus. Ça me permet justement, moi, de m'assurer que l'atelier avec lequel je vais travailler correspond à nos valeurs et aux engagements que l'on veut prôner. Et après, à la deuxième échelle, un deuxième échelon, comme tu disais, pour le consommateur final, de pouvoir lui expliquer qu'effectivement, les engagements que l'on veut mettre en avant, c'est bien une fabrication française, c'est une fabrication artisanale, c'est une fabrication d'excellence, sur lequel, du coup, on vient remettre en avant les labels des ateliers, des partenaires, des sous-traitants, des fournisseurs avec lesquels on travaille. D'une part, ça va conforter le consommateur qui, de base, souhaite déjà consommer responsable ou consommer Made in France. Et puis, ça peut être justement de l'assurance à quelqu'un qui souhaite découvrir le Made in France, de comprendre que, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas normal d'acheter un t-shirt à 5 euros. Mais pourquoi cette affirmation et pourquoi ce n'est pas normal? C'est là où on a besoin justement d'accompagner le consommateur et de déconstruire ce qui a été construit ces 10, 20, 30, 40, 50 dernières années, de dire que non, on n'est plus dans l'ère de la délocalisation, dans plus l'ère du prix, et qu'il faut bien comprendre que qu'un t-shirt, c'est pas 5 euros en fait. Donc déconstruire l'image que l'on avait aujourd'hui du prix textile, comme on l'a fait au final ces 10 dernières années sur l'alimentaire.
Tout à fait.
Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu, mais il y a quelques années, acheter un légume bio, ça parlait à personne. C'était cher, on n'en trouvait pas beaucoup.
Ouais,
et aujourd'hui, c'est devenu normal de faire attention à ce que l'on consomme dans l'assiette.
Et de plus en plus, d'ailleurs, avec les étiquettes qui sont de plus en plus scannées, la composition de produits qui est de plus en plus regardée. Je pense que l'alimentaire a été un des premiers secteurs sur lequel la population s'est véritablement interrogée, en espérant que le textile suive et que, effectivement, la démarche de transparence soit la plus généralisée possible.
C'est exactement ça. Donc, on a su passer ce cap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange dans mon assiette, ce que je mets dans mon assiette. Aujourd'hui, on est dans le 2.0, on va se dire. Ça va être qu'il faut que je transpose ces engagements, que je transpose le fait de faire attention à ce que je mets sur mes épaules, tout simplement.
Et avec combien d'ateliers vous travaillez? Parce que Tranquille et Mille, c'est une gamme de vêtements pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y a aussi des accessoires. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des savoir-faire différents. Et chaque usine a quoi? Sa propre spécificité?
Globalement, c'est à peu près ça, oui. Si on suit ce que tu dis, nous, globalement, on travaille à peu près avec une quinzaine d'ateliers, plus sur lesquels on va pouvoir ajouter justement les fournisseurs de matières, les tricoteurs, les teinturiers, les tisseurs d'étiquettes, le brodeur, etc. Mais aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine d'ateliers. Autant on va avoir quelques ateliers qui vont détenir un savoir-faire et des compétences similaires, donc on parlait du t-shirt et du sweat, c'est une compétence assez commune et assez répandue auprès des ateliers. Pour autant, on va s'adresser à un autre atelier dès lors qu'on va vouloir faire des chaussettes. Ça va être un autre atelier pour nos casquettes, ça va être un autre atelier pour nos doudounes. Donc on a vraiment après des savoir-faire qui sont différents. Qui ne veut pas dire que demain l'atelier avec lequel je fais des t-shirts et des sweats ne pourra pas faire des polos, mais aujourd'hui en l'état, on a des savoir-faire qui sont globalement assez segmentés et on n'a pas un atelier auquel on va s'adresser pour lui dire tiens, il me faut des t-shirts, des sweats, des sweats à capuche, des pulls, des polos, des doudounes, des casquettes, des chaussettes.
Et alors, parle-nous justement de la doudoune, parce que j'ai cru comprendre qu'elle avait parcouru à peine 150 km entre sa fabrication et puis sa finalisation. Et quand on pense à doudoune, on pense plutôt à un matériau qui ne doit pas être très très green, alors qu'au contraire, avec Tranquille Émile, vous me prenez le contraire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Dans tous les cas, sur le matériel, effectivement, tu as raison de le souligner. Dès lors qu'on va vouloir aller sur un produit qui va être un peu plus technique, dans le sens technicité de la matière, quelque chose qui peut être isolant, qui peut être déperlant, qui peut être imperméable, etc. Effectivement, on ne parlera pas de matière 100% naturelle telle que la laine ou le coton. Donc aujourd'hui, nous, sur notre doudoune, on va notamment travailler sur de la ouate, donc qui est un produit synthétique, qui est en polyester, mais qui est fabriqué en France. Et on revient également sur la partie dont je parlais au début, de dire que c'est notamment la fabrication qui aujourd'hui a un impact environnemental qui n'est pas bon. Aujourd'hui, notre doudoune est intégralement fabriquée en France et toute la partie confection, tissage, assemblage, les étiquettes, pareil, l'impression des étiquettes, tout est fait dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme tu disais, ça fait que notre doudoune parcourt à partir de sa première étape, le matelassage, jusqu'à son stockage dans notre entrepôt, va parcourir en moyenne 150 km, qui fait que notre empreinte carbone est maîtrisée au mieux, qui permet d'une part d'éviter des allers-retours excessifs, d'autre part d'éviter des trajets qui soient superflus, et de dire qu'on arrive à tout faire justement dans des entreprises françaises et qui utilisent une énergie qui est beaucoup moins carbonée, avec une empreinte carbone bien meilleure que d'autres entreprises qui seraient situées dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, c'est rien que pour la doudoune, c'est une dizaine d'entreprises françaises qui sont sollicitées pour justement avoir chaque partie, fourniture de la doudoune qui soit faite en France.
Est-ce que ça a des contraintes de produire en France ? Tu parlais tout à l'heure de la laine, donc je crois que vous avez aussi un pull en laine fabriqué en France. Mais est-ce que ça veut dire que demain, si vous voulez faire un pull, par exemple, en cachemire, effectivement, il n'y a pas de cachemire, de laine de cachemire en France. Est-ce que il y a des contraintes, des choses que vous aimeriez faire, mais qu'aujourd'hui, vous imposez de ne pas faire parce que ça ne correspondrait pas à vos valeurs de soutien à la production française ? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet ?
C'est exactement ce que tu dis. On ne peut pas non plus créer des savoir-faire qu'on n'a pas. Et on ne peut pas créer des savoir-faire qu'on ne peut pas faire. Je vais prendre un exemple tout bête, par exemple. Faire du chocolat fabriqué en France, c'est possible. Mais le faire pousser du cacao en France, c'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour certains produits, ça semble normal de dire qu'on va aller chercher une matière qui soit ailleurs. Mais parce que chaque pays a pour le coup... un certain savoir-faire. Chaque pays, chaque région de certains pays sont réputés soit pour des matières ou soit pour des savoir-faire. Donc bien évidemment, si demain chez Tranquille Émile on viendrait faire du chocolat, on va pas dire je vais faire du chocolat sans fève de cacao. C'est absolument impossible. Donc de la même façon que nous aujourd'hui, sans concession, tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Donc bien évidemment, si demain je viens me dire que je veux sortir tel produit et qu'on est incapable de le faire en France, soit on le fait pas, soit on se dit c'est pas notre cœur de savoir à faire ce produit en France, laissons-le là où il est parce qu'ils savent le faire avec de grandes compétences et une grande qualité, ou soit on peut essayer de, comme la doudoune, de relancer ce savoir-faire, parce qu'en France, on savait faire beaucoup de doudounes. Et aujourd'hui, on ne savait plus faire toutes les étapes de fabrication en France des doudounes. Certaines étapes étaient conservées en France pour certaines marques, mais refabriquer une doudoune intégralement en France, et nous, surtout intégralement en Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'existait pas, pour le coup, de le faire en région. Donc, laissons les savoir-faire et les compétences là où elles sont. On n'ira pas les chercher si bien sûr elles sont à l'autre bout du monde. De la même façon, la laine de cachemire, c'est dans le nom. Autant on peut sortir demain un pull qui serait en cachemire, autant la matière ne viendrait pas de France. Par contre, nous, on s'efforcerait de, sans concession, tout ce qu'on peut faire en France, on le fait en France. Donc là, tout ce qui serait tricotage et assemblage serait fait en France. Ce qui est le cas globalement pour la majeure partie de nos pulls. Comme tu le soulignais, on a un pull qui est en 100% laine de France, où là on est sur un élevage de moutons qui est dans le sud de la France, qui est à Arles, et ensuite on est sur une fabrication, pareil, totalement en France. Donc on a un pull fabriqué en France et de France. Après, sur nos autres références de pulls, on vient notamment travailler avec de la laine italienne, parce que malheureusement, on ne peut pas faire tout type de travail avec cette laine française, parce que la filière lainière française a énormément souffert justement du fait que 80% de la production est exportée en Chine. Et les filateurs italiens ont aujourd'hui un grand savoir-faire, et un savoir-faire de qualité, et qui globalement correspond justement à nos engagements d'insertion, de valeur du travail, des droits de l'homme, etc. Donc aujourd'hui, j'espère que dans quelques années, bien sûr, qu'on pourra avoir que des produits et que des pulls qui soient en laine française. Mais aujourd'hui, on peut très bien se baser justement sur le savoir-faire de ces filateurs italiens, qui ne sont finalement pas très loin. Et nous, c'est pareil, c'est qu'après toutes les étapes qui suivent, on les conserve et bien sûr qu'on continuera de les faire en France.
C'est passionnant. Et concernant votre engagement sur la recyclabilité, tous les produits que vous produisez sont recyclables ?
Globalement, nous, on travaille à 95% à peu près sur du monomatière, qui permet de favoriser justement le recyclage sur du 100% coton bio, sur du 100% laine. Effectivement, aujourd'hui, on a eu fait, notamment il y a 2 ans, des pulls qui étaient sur des mix. Des mix de matières, notamment 50% laine et 50% acrylique, qui permettaient, pour des questions techniques, d'avoir un fil qui soit plus fin et d'avoir également, par le biais de l'ajout de cette matière synthétique, d'autres avantages. Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles on tend à les bannir au maximum. Typiquement, tous nos produits qui sont en coton, les sweats, les t-shirts, les sweats à capuche, les polos, ils sont 100% coton.
Oui, et ça, c'est pour valoriser justement le fait qu'ils soient davantage recyclables en fin de vie ?
C'est d'une part pour valoriser les matières naturelles, donc c'est-à-dire qu'en termes d'impact, on n'a pas de fibres qui sont issues du pétrole, et d'autre part, justement, pour permettre justement ce recyclage par le biais de la monomatière et de se dire, tiens, quand mon produit arrivera en fin de vie, que je reste sur des produits qui soient facilement recyclables et sur lesquels on n'ait pas besoin d'une technicité ou d'étapes excessives pour le recycler, par exemple.
Et aujourd'hui, vous insufflez des matières récoltées, recyclées dans les chaînes de production. Est-ce que les produits sont en partie éco-conçus ?
Alors, on a quelques-unes, notamment on a sorti quelques références, notamment cette année, un bandeau, un headband pour femmes, ainsi qu'une écharpe qui sont en laine recyclée. Donc là, on est sur un produit qui est en 70% laine et qui est en 100% recyclé. On a également nos tote bags qui sont en matière 100% recyclée. Nous, aujourd'hui, en termes de recyclage et d'empreinte qu'on peut avoir par rapport à la production et par rapport aux chutes que nos productions pourraient engendrer, c'est le fait qu'on va réutiliser ces chutes de tissus pour en faire d'autres produits. Donc typiquement, il y a 2 ans, on a réutilisé nos chutes de suite pour pouvoir faire des petits chouchous, qui a permis justement sur des petites chutes de pouvoir les réutiliser pour en faire un produit, pour éviter justement d'avoir ce déchet qui ne soit pas utilisé. Avec nos chutes de doudoune l'année dernière, on a fait des petites trousses et des pochettes de protection pour ordinateur, parce que du coup là la matière s'y prêtait bien, sur lequel du coup on peut y mettre l'ordinateur et le balader sans risque qu'il prenne des coups. Tous nos nouveaux t-shirts pour enfants sont fabriqués à partir des chutes ou des restes de rouleaux inutilisables de nos t-shirts adultes. Donc de la même façon, on tend vraiment à avoir une production qui soit 100% efficiente en termes de production pour éviter, au final, d'avoir des sacs poubelles de chute, d'avoir des rouleaux, des fins de rouleaux qui ne soient pas utilisés. Parce qu'au final, qu'est-ce qui pollue le plus ? Ça serait une matière ou ce serait un produit qui serait fabriqué, donc qui aurait une empreinte carbone et qui resterait dans un carton.
Oui, tout à fait. C'est une démarche qui est complètement complète. Et puis effectivement, la matière qui pollue pas, c'est celle qui n'est pas produite. Donc l'idée de bien tout utiliser contribue aussi à maîtriser son impact carbone, son impact sur l'environnement. Il ne s'agit pas simplement d'utiliser les matières qui sont existantes ou d'éco-concevoir, mais c'est aussi de veiller à ne pas jeter. Et en ça, j'admire votre démarche qui est vraiment...
C'est également pareil, la question qui est un petit peu controversée, notamment pour les marques responsables, des soldes. Donc là, je ne parle pas du Black Friday, je parle bien des soldes. Aujourd'hui, c'est devenu un cheval de bataille de plusieurs marques, à tort ou à raison, sans jugement là-dessus, de se dire, tiens, il ne faut pas faire de soldes. Moi, je suis plutôt dans une optique de se dire, si, moi, j'ai besoin des soldes. Initialement, par contre, il faut revenir à ce que les soldes étaient avant. C'est ce qu'on appelle, nous, avec un petit jeu de mots, les responsoldes chez Tranquille Émile, qui sont des soldes raisonnés, qui ne sont pas sur les produits qui sont intemporels, parce que, ben, de par son nom, un produit intemporel est toujours réassorti, donc j'ai pas besoin de faire des soldes. Parce que comment on veut utiliser les soldes et pourquoi on veut utiliser les soldes, qui fait que ma référence que j'ai sortie uniquement pour cette collection printemps-été, parce qu'il y avait, par exemple, je sais pas, une collection pour l'Euro de foot ou pour le Tour de France ou autre, lorsqu'il me reste 2-3 tailles, 2-3 références qui n'ont pas trouvé preneur, comme on disait, le vêtement qui pollue le plus, c'est celui qui reste dans un carton. Ouais. Donc, est-ce que une à deux fois dans l'année, je peux le proposer, qui, moi, de façon très pragmatique, ça me permet de refaire de la place sur ma zone de stockage, ça me permet justement de faire sortir cette référence qui me reste sur le bras, et une à deux fois dans l'année, pour le consommateur, eh ben, ça lui permet de consommer et de découvrir le Made in France à un prix qui soit un peu plus attractif pour lui. Donc là, je trouve qu'on est sur justement quelque chose de vertueux, de se dire qu'une à deux fois dans l'année, on peut faire des soldes qui soient raisonnés et qui permettent aux marques telles que Tranquille Émile de pouvoir sortir les quelques tailles, hein, le double XL, le XS ou parfois quelques tailles intermédiaires qui nous resteraient sur les mains, même si on s'efforce à chaque collection, bien sûr, de pouvoir coller au mieux aux besoins de nos clients et de ne pas surproduire. Mais bon, mis à part être devin, à chaque collection, globalement, soit on est en rupture trop tôt ou soit il nous reste quelques produits. Donc on ne peut pas tabler à 100% justement sur la demande. Et de le faire en toute intelligence et de revenir à ce qu'étaient les soldes, c'est-à-dire de pouvoir libérer les invendus et permettre à une personne de découvrir le fabriqué en France à un prix qui soit plus attractif.
Oui, et puis j'imagine qu'au départ, au lancement Tranquille Émile, il a fallu aussi savoir quelle était la demande. Donc, pas toujours évident de tabler juste. Et on ne peut pas forcément faire une production à la demande si on veut aussi concurrencer des circuits de distribution plus importants qui promettent un t-shirt qui soit disponible tout de suite. Donc, évidemment, au départ, vous avez dû aussi réajuster la demande, la production, pour viser au plus juste. Et ça nécessite parfois de passer par des produits qui ne sont pas commandés et qui restent un peu sur les bras. D'où la notion de solde, mais de solde maîtrisé. J'ai Tranquille Émile, il y a une collection par an, deux collections par an.
Il y a deux collections, oui. Ouais. Il y a deux collections par an. On a printemps-été et automne-hiver. Sur chaque collection, on a ce que je disais, le réassort des intemporels, donc qui sont vraiment les basiques avec généralement juste un logo au niveau du cœur sur des coloris qui ne se démodent peu ou pas. Et sur lequel on est toujours en réassort dessus. Donc par exemple, à chaque printemps-été, je retrouve mon t-shirt blanc. Qui est le basique, qui est l'intemporel de chaque dressing, le t-shirt blanc, un t-shirt blanc, tout le monde en a un. Donc à chaque fois, je le retrouve. Et puis après, sur chaque collection printemps-été, automne-hiver, on a une partie qui là est une petite collection saisonnière, qui sont des références, qui sont vouées à être vendues sur quelques mois, sur la saison, et ensuite à ne pas être réassorties l'année suivante, parce que de base, voilà, ce sont des choses qui sont beaucoup plus saisonnières et sur lesquelles on va... parfois s'amuser un peu plus niveau style, niveau coloris, niveau broderie, sérigraphie.
Et tu parlais tout à l'heure d'un petit logo cœur. Est-ce que tu parlais de votre mascotte, la grenouille malicieuse ?
La petite grenouille, oui. La petite grenouille qu'on a surnommée Émile, d'où le Tranquille Émile.
D'accord. Et ça, c'est une petite broderie qui est sur chaque pièce ou sur certains éléments uniquement ? C'est peut-être pas une broderie d'ailleurs. Hein.
Effectivement, c'est une broderie, t'as bien raison de le souligner, c'est une broderie sur la majeure partie de nos vêtements qu'on privilégie une broderie qui d'une part donne un aspect quand même plus qualitatif et plus premium à un vêtement et permet également d'avoir quelque chose de durable et qui va beaucoup s'abîmer beaucoup moins vite qu'une sérigraphie. Donc globalement, on a à peu près 60-70%, ce sont des intemporels sur lesquels on a la broderie de notre petite grenouille justement, qui est brodée au niveau du cœur, qui est soit en tricolore bleu-blanc-rouge, ou soit en ton sur ton, ou soit juste en contour pour avoir des choses qui sont encore plus discrètes. Et puis après, voilà, on essaye des choses qui sont parfois un peu plus fun, un peu plus rigolotes, qui dénotent un peu plus, sur lesquelles on teste. Globalement, on arrive à ne pas trop se tromper, on va dire, et à faire des choses qui plaisent, mais c'est un certain parti pris, et on n'est pas du tout dans l'optique, justement, de refaire des centaines et des centaines à chaque saison, mais plutôt de laisser vivre cette référence, et une fois qu'elle est en fin de vie, justement, s'il nous reste quelques quantités, et ben là, on en revient au solde maîtrisé, au solde raisonné, qui nous permettent de finir de l'écouler.
Concernant la livraison, comment sont expédiés les produits Tranquille Émile ? dans un carton, un emballage particulier?
C'est un emballage souple. L'avantage du carton, c'est qu'il est facilement recyclé et recyclable. L'inconvénient, c'est qu'en termes de volumétrie, le carton a toujours des espaces morts à l'intérieur. Tu sais, j'imagine que tu as déjà reçu des cartons où tu as plein de cartons à l'intérieur pour pouvoir éviter que ton produit se balade. Bon, typiquement, c'est ce qu'on veut éviter chez Tranquille Émile. On veut éviter d'avoir des choses qui soient inutiles dans le carton, d'une part, et d'éviter que mon carton, enfin, si mon produit fait, je sais pas, X mètres cubes, et ben, qu'il en fasse le double parce qu'il est dans un carton et qu'on n'a pas un carton adapté à chaque taille pour un t-shirt, deux t-shirts, un sweat, trois sweats et un t-shirt, etc. Donc, on le fait dans un sachet souple qui est 100% recyclé.
D'accord.
Donc, qui nous permet justement de pouvoir garder une empreinte responsable et éco-responsable même sur la livraison. Donc, c'est un petit sachet qui est 100% recyclé, qui est souple et qui permet du coup vraiment de pouvoir rejeter toute l'air qu'on pourrait avoir et d'avoir quelque chose dans la petite fourgonnette de la poste ou dans le camion de livraison de Mondial Relais, par exemple, de pouvoir limiter au maximum la place qu'il prend. Et d'éviter justement de se dire que je dois envoyer 10 produits, c'est une camionnette et c'est pas deux camionnettes parce que j'ai pas d'espace mort dans chacun de mes colis.
Très bien. Et si en fin de vie mon pull à la petite grenouille est abîmé, est-ce que je peux vous le renvoyer ou est-ce que je le mets plutôt dans les bornes classiques de collecte de vêtements?
Là tout de suite, à court terme en tout cas, et jusqu'à peut-être à moyen terme, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on travaille en priorité. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est des questions qu'on se pose. C'est des choses qu'on voit également chez d'autres marques qui sont sur du Made in France ou de la consommation responsable. Justement, le traitement de ces produits en fin de vie, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite. Aujourd'hui, moi, j'inciterais les gens, si c'est un problème de goût, de mode ou autre, éventuellement d'en faire partager par le biais des applications, par le biais du vintage quelqu'un d'autre, de se rapprocher auprès des ressourceries aussi, qui mm-hmm. peuvent permettre, lorsque le vêtement est en bon état, de donner une seconde vie justement au produit. Et puis, sinon, les bornes de recyclage qui permettent également de soit de recycler le produit ou soit d'en faire profiter une autre personne.
On parlait tout à l'heure de circuit de distribution. Vous êtes uniquement présent sur votre e-shop ou également via des partenaires?
Alors nous, à 80%, on fait 80% de nos ventes sont les ventes qui sont e-commerce, donc sur notre site tranquilleemile.net. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus vocation à développer cette partie du site, étant donné qu'on est une marque qui est globalement e-commerce et qui est née en étant une marque e-commerce. Donc voilà, à court, moyen terme, l'idée, c'est de pouvoir justement continuer à accélérer sur le site. Pourquoi pas, plus tard, envisager bien sûr un petit magasin, un petit concept store Tranquille Émile sur lequel on pourrait retrouver l'intégralité de la collection. Mais aujourd'hui, ça, on laisse plutôt cette main aux magasins revendeurs avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, on a une trentaine de magasins qui sont répartis un peu dans toute la France, qui sélectionnent quelques produits Tranquille Émile, les produits qui leur plaisent le plus et qui peuvent justement répondre aux besoins et aux envies de leurs consommateurs en magasin. Et là, ils nous achètent quelques produits, ils les revendent dans leur magasin. Donc globalement, on a ce ratio, 80% de ventes sur notre site internet, et les 20% restants correspondent notamment aux magasins revendeurs, aux concept stores responsables Made in France, avec lesquels on travaille et qui nous permettent également d'être présents physiquement un petit peu partout dans toute la France.
Oui, puis j'imagine une belle occasion aussi de se faire connaître auprès d'un autre public que vous n'arriveriez peut-être pas à toucher via le e-shop.
C'est exactement ça, c'est dans tous les cas les limites du e-commerce fait qu'on ne voit jamais le produit en physique tant qu'on ne l'a pas reçu et payé. L'avantage du magasin, c'est que ça permet de toucher et d'avoir justement le produit physiquement dans les mains sans forcément l'avoir acheté. Donc aujourd'hui, ça nous permet également de toucher cette cible de personnes qui ont encore besoin de voir le produit et également d'avoir un accompagnement humain. Et ça, clairement, il ne faut pas se voiler la face. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on est sur des salons pour Tranquille Émile, en tant que marque qui vend sur des salons, c'est des expériences qui sont extraordinaires parce que c'est des rares moments sur lesquels on peut discuter physiquement, en réel et en face à face avec le consommateur, avoir son avis, pouvoir lui présenter également nos engagements. Et ça, pour le coup, ça n'a pas de prix. C'est vraiment des expériences qui sont hyper chouettes. Et pour le magasin, des personnes ont toujours la volonté justement de privilégier le contact humain. Donc heureusement aujourd'hui qu'on ne fait pas que du e-commerce.
Est-ce que tu ressens de la concurrence ?
Bah oui, dans tous les cas, on le voit bien aujourd'hui que le fabriqué en France, c'est globalement assez en vogue à la fois dans la communication des partis politiques, des collectivités, des entreprises et également du consommateur. Et les médias s'en emparent aussi. Les médias, justement, nous mettent en avant et nous font parfois un vrai éclairage sur certaines pépites, certaines marques du Made in France. Et moi, je le vois depuis 3 ans qu'on est chez Tranquille Émile. Est-ce que c'est le fait d'être dans le Made in France et d'en entendre parler tous les jours, ou est-ce que c'est le fait qu'on entend parler beaucoup plus à un niveau plus global? Mais en tout cas, on est contacté de façon beaucoup plus régulière par des jeunes ou des moins jeunes qui ont la vocation de lancer un projet entrepreneurial dans le fabriqué en France, en tant que plateforme de revendeur, en tant que magasin, en tant que jeune marque sur un produit spécifique. Donc on voit qu'il n'y a jamais eu, en tout cas à mon niveau, autant d'intérêt, autant d'attrait pour le fabriquer en France. Et ça, c'est génial parce qu'on a quand même la chance d'être dans un univers qui est bienveillant. Et là-dessus, moi j'adore pouvoir justement discuter du Made in France avec des gens, que ce soit des étudiants qui écrivent un mémoire, des étudiants qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet, une personne qui est en reconversion et qui a décidé du jour au lendemain de quitter son boulot pour ouvrir un concept store et mettre en avant le fabriqué en France. Voilà, c'est des projets qui sont top. Donc on ressent de la concurrence, oui, mais voilà, ça reste quand même, ce que je disais, bienveillant et un univers dans lequel on est beaucoup plus à s'entraider plutôt qu'à se tirer entre les pattes.
Quelle est ta vision de la rentabilité de l'entreprise? Comment, à ton niveau, tu arrives à concilier de la croissance qui soit rentable avec cette notion de consommation plus raisonnée et donc de limiter aussi l'appel à la consommation en disant bah, on a peut-être besoin d'avoir peut-être moins de pièces dans son dressing et donc de concilier ces deux univers en fait. Vendre toujours plus aussi pour absorber les coûts de production et en même temps appeler à les consommateurs à mieux regarder les étiquettes, à se demander si on a vraiment besoin d'acheter telle ou telle pièce, à en avoir peut-être un peu moins et consommer mieux. Quelle est ta vision de ça?
Bah c'est pas évident parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que nos produits sont plus chers qu'on gagne plus d'argent. Au contraire. Aujourd'hui, justement, le fait de faire fabriquer en France, de facto, ça impacte le prix de vente au consommateur. Et aujourd'hui, si par exemple, mon pull en laine de France est vendu 140 euros, avec Olivier, on s'est pas posé à une table en disant, allez, combien on veut gagner sur ce pull-là? Hop, un coup de baguette magique. Pardon, un coup de baguette magique, on va le vendre à ce prix-là et on va gagner énormément d'argent et ça va être trop bien. Non, loin de là. C'est que au contraire, on va dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, combien justement nous coûtent nos engagements, le fait de pouvoir avoir une laine française, de pouvoir tricoter la laine en France, de pouvoir l'assembler en France, et justement les valeurs de ces engagements aujourd'hui ont un impact direct sur le coût. Et ensuite, la chose, effectivement, c'est pas de pousser à la surconsommation, mais c'est de penser à de repenser à une consommation responsable. Dans tous les cas, on aura toujours besoin de vêtements. Faire attention à l'environnement, c'est pas dire que il faut justement un seul t-shirt qu'on lavera une fois tous les 6 mois et que ce sera très bien pour l'environnement. Non, c'est justement de faire comprendre que plutôt que d'acheter justement 5 t-shirts à 5 euros, et de les acheter son t-shirt blanc qu'on garde tous les ans mais qui au final est déformé ou est un peu jauni à la fin de la saison, de se dire bah tiens, plutôt que d'en acheter un tous les ans, peut-être en acheter un au jeu cette année, et il me fera peut-être 3, 4, 5 ans parce qu'il sera un peu plus épais, parce qu'il aura des coutures qui sont beaucoup plus solides, parce qu'il aura une broderie qui va beaucoup plus tenir. Donc c'est pas un appel à la surconsommation, c'est un appel justement à faire attention aux étiquettes pour dire non, ce t-shirt-là, je ne l'achète plus, je ne l'achète pas. Et au contraire, je vais me diriger vers une consommation qui soit plus responsable. Typiquement, ça serait en gros des vases communicants. Ce que je n'achète pas à droite, c'est parce que je l'achète du côté de chez Tranquille Émile. Et pour autant, je m'achète plus mes 10 t-shirts à droite pour m'en acheter 10 chez Tranquille Émile.
Ouais, tout à fait. Très bien. Et alors, quelle est ta vision de Tranquille Émile? Jusqu'où tu aimerais l'emmener?
Bah nous aujourd'hui, c'est d'aller, ce que c'est voilà, c'est, on va dire là presque la boucle est bouclée parce que c'est ce que je disais au tout début, c'est de se dire que aujourd'hui, que lorsqu'on se connecte sur tranquillemille.net, on a environ 140, 150 références tout coloris confondus. L'idée, c'est de pouvoir continuer comme ça. Aujourd'hui, on fait pas de vêtements de bas, par exemple, parce qu'on n'a pas forcément le savoir-faire en interne, nous aujourd'hui, pour avoir une bonne traçabilité et un produit qualitatif sur des vêtements de bas. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on change. J'aimerais justement, ben, toi que Pauline, tu te connectes sur tranquillemille.net, tu te dises, bah, tiens, je cherche un chino, que ce soit un chino féminin ou un chino masculin, mais je cherche un chino. Bon, aujourd'hui, tu ne le trouveras pas chez Tranquillemille. L'idée, ça serait de pouvoir proposer un dressing made in France et responsable complet, et de se dire, bah, tiens, j'ai besoin d'un produit, je vais chez Tranquillemille, je sais que je trouverai soit le produit que je veux ou soit un produit similaire. Donc d'aller plus loin justement, bah, dans les produits que l'on développe et que l'on crée, et d'aller après toujours plus loin, bah, de nos engagements. Donc là, typiquement, l'année prochaine, on va également sortir nos premiers t-shirts qui vont être en lin. C'est à la fois une réponse aux demandes qu'on a eues du consommateur, et c'est également une réponse à cette volonté d'aller plus loin dans nos engagements. Contrairement au coton, le lin, on peut le faire pousser en France. On est même très bon là-dessus en France pour faire pousser du lin. Donc pourquoi pas valoriser justement la filière de lin française. Et c'est pour ça qu'on sort du coup nos premiers t-shirts en lin. Donc on ira toujours plus loin dans nos engagements tant qu'on peut le faire. Bien sûr, on ne se mettra pas des œillères à se dire que demain, il ne faut travailler que le lin. Ça ne permettra pas d'avoir les mêmes applications que la laine ou le coton. Mais tant qu'on peut valoriser des produits qui viendraient au plus proche de chez nous avec les matières les plus naturelles et les plus responsables, et bien on le fera.
Et à plus court terme, les projets qui sont en cours de développement ?
Bah là, sur, donc il y a les t-shirts en lin qui vont sortir pour printemps-été. On est également en train de travailler justement sur nos premiers maillots de bain qui vont sortir. Donc tu vois, on commence à attaquer les vêtements de bas justement à partir de printemps-été. Donc pareil, un maillot de bain qui sera intégralement fabriqué dans notre région, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, sur plus la fin d'année prochaine, on a parlé de notre première doudoune, la première doudoune qui est fabriquée en France et certifiée Origine France Garantie. Et puis là, on est en train de travailler sur une deuxième doudoune, mais on se pose beaucoup de questions, parce qu'on aimerait que cette doudoune soit plus épaisse, soit avec une capuche. On aimerait aussi, pareil, aller plus loin dans l'engagement. On a peut-être une solution de la faire en 100% matériaux recyclés. Donc ça pourrait être super, se dire, bah tiens, on a une doudoune plutôt classique avec qui est sorti l'année dernière, et une nouvelle doudoune qui serait en 100% recyclée, qui pourrait être plus chaude, plus épaisse, voilà, qui serait un peu différente et qui permettrait justement de toucher une cible différente de gens qui recherchent vraiment un vêtement chaud et qui puissent le trouver fabriqué en France.
Top. Et le B2B, ça reste une option pour vous ?
Le B2B, c'est ce que je disais, ça permet justement d'avoir ce maillage territorial, d'être présent physiquement un peu de partout dans toute la France. Nous, aujourd'hui, là, on voit notamment la partie où ça s'accélère, c'est notamment sur les entreprises qui souhaitent développer justement leur engagement RSE, leurs engagements responsables au sein de leur entreprise, et sur lequel aujourd'hui, on travaille beaucoup plus et de plus en plus avec des collectivités, avec des associations, avec des entreprises. Soit on leur crée une ligne de vêtements à leur image, ou soit on peut partir sur des vêtements Tranquillemille qui leur permettent justement de se dire... On va reprendre l'exemple du manger bio, du manger local. Moi, je suis par exemple un restaurant. On a travaillé avec un restaurant qui justement met en avant le fait que tout ce qu'il présente dans l'assiette est bio et local. Dès lors, équiper son équipe en salle, ça lui paraît inconcevable de se dire je vais acheter des polos pour équiper mon personnel avec des polos qui seraient fabriqués à l'autre bout du monde. Donc, pour aller plus loin justement dans cet engagement, là, on peut faire des collections de t-shirts, de polos, de suites ou d'autres produits qui sont logotés à l'image de l'entreprise. Et on travaille aujourd'hui de plus en plus sur ce volet-là B2B pour permettre justement aux entreprises d'avoir une vraie alternative à des vêtements d'image qui sont fabriqués à l'autre bout du monde.
Et alors, toi, si tu pouvais changer quelque chose pour un monde meilleur, qu'est-ce que ce serait ?
Et ça serait que chaque consommateur puisse comprendre une étiquette et comprendre ce qu'il y a derrière une étiquette. Techniquement, aujourd'hui, on se bat notamment sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a des commentaires qui peuvent être plus ou moins désagréables, d'expliquer que ce que je disais, que c'est pas une volonté, on n'a pas choisi de se dire que mon pull, je veux le vendre tel prix, mon t-shirt, je veux le vendre tel prix. Bien sûr que moi, j'aimerais pouvoir proposer un prix qui corresponde au portefeuille de tout le monde. Mais si on pouvait changer quelque chose, ça serait que chacun puisse réaliser justement le vrai prix des vraies choses et de se dire que derrière un t-shirt à 5 €, c'est pas simplement un t-shirt qu'on va utiliser 3, 4 mois, 6 mois ou peut-être un an au maximum, mais que derrière, ce sont des emplois qui sont pas respectés, des personnes qui ne travaillent pas dans des conditions qui leur permettent justement de s'épanouir et un environnement qui empathie. Donc d'expliquer que moi, aujourd'hui, un t-shirt fabriqué en France, pas forcément Tranquillemille d'ailleurs, mais un t-shirt fabriqué en France, il a une vraie histoire derrière, c'est de l'emploi potentiellement de quelqu'un de votre entourage, c'est valoriser les savoir-faire locaux. Et aujourd'hui, c'est tous ensemble, justement. Ben, si demain, je ne fais plus 500 t-shirts blancs, mais j'en fais 5000, bien évidemment, si on peut justement avoir des économies d'échelle, bien évidemment qu'on voudrait les répercuter sur le consommateur dès lors que sa consommation devient responsable.
Top. Et tes gestes green à toi, du quotidien ?
Bah, moi, j'essaie de... Alors, bien sûr, personne n'est irréprochable, mais j'essaie de faire au maximum d'élan. Moi, je suis un grand adepte du vélo. Je fais beaucoup de vélo et j'aimerais pouvoir tous les jours aller au bureau en vélo. Malheureusement, c'est pas forcément possible parce que lorsque je vais justement rencontrer nos ateliers, c'est 45 minutes de route. Donc, en vélo, ça ferait une journée un peu courte si je devais me déplacer qu'en vélo. Mais voilà, moi je suis pas un grand consommateur en tout cas de vêtements. C'est quelque chose sur lequel je fais attention depuis quand même un assez long moment. Donc voilà, j'essaye en tout cas moi de bien lire toutes les étiquettes, de bien comprendre aujourd'hui ce qu'il y a derrière chaque étiquette, aussi bien que ce soit sur du textile que de l'accessoire, que du matériel pour chez moi ou de l'alimentaire. De la même façon, l'alimentaire, je pense que le premier geste, ça serait de comprendre la saisonnalité des fruits et des légumes et de se dire qu'effectivement, un fruit qui est fabriqué à l'autre bout du monde ou avoir un fruit d'hiver en plein été, c'est pas forcément bien logique. Donc déjà, je pense que si on était chacun au fait de ça, ça permettrait de mettre un petit coup de pied dans la machine et de rester sur de la consommation locale.
Ouais, arrêtons de consommer des tomates en plein hiver.
Voilà, c'est exactement ça. Tu vois, je vous avais pas le dire, mais c'est exactement l'exemple de la fameuse tomate.
Et elles sont pas bonnes en plus. Oui. Top. Eh ben, écoute, merci pour ce partage. Je crois qu'il est l'heure qu'on passe au quiz. Est-ce que tu es prêt ?
Ben, je sais pas, mais je te le dirai après.
D'accord, allez, c'est parti. Première question, elle est toute facile parce que j'ai quand même l'impression que tu as donné un élément de réponse. Pour te déplacer, t'es plutôt Air France ou Blablacar ?
Ben, je dirais ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre, parce que ouais, d'une part le vélo, et puis globalement, je suis, voilà, mis à part pour les rendez-vous professionnels, j'essaie au maximum de privilégier lorsque c'est les vacances le train. Donc, on peut voter blanc ou pas ?
Ouais, bien sûr. Super. Pour booster les ventes sur Tranquille et Mille, Black Friday ou Make Friday Green Again ?
Bah, Black Friday Green Again, mais pour autant, tout n'est pas acheté dans le Black Friday. On en parlait tout à l'heure, justement, ouais. des soldes. L'opération, justement, Black Friday, correspond pas à ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, sur une journée, gonfler des prix pour ensuite les diminuer ou proposer moins 80%, effectivement, ce n'est pas viable et ce n'est pas correct pour le consommateur et pour l'environnement. Par contre, Black Friday Green Again et pouvoir faire des soldes raisonnés qui soient compris par le consommateur et dont tout le monde ressort gagnant, bah, ça, ce serait top.
Top. Pour te refroidir en été, acheter un climatiseur ou planter un arbre ?
Planter un arbre, tu verrais mon balcon, je pense qu'il y aurait suffisamment d'arbres justement pour me garder au frais l'été.
Si tu n'as rien dans ton frigo, plutôt McDo ou Too Good To Go ?
Too Good To Go, mais c'est vrai que je suis un peu un mauvais élève dessus parce que j'ai utilisé et puis ça fait un moment effectivement que j'y suis pas allé. Mais j'ai la chance moi sur ma route d'avoir une petite boulangerie justement qui justement propose des invendus en fin de journée et du coup d'y passer. D'une part c'est plutôt sympa parce que ça utilise leur invendu et puis d'autre part ça fait plaisir à tout le monde quand on rapporte quelques pâtisseries le soir.
Carrément. Le lundi, t'es plutôt steak frites ou veggie Monday ?
Alors moi je suis pas trop végie, je suis plutôt à la base un gros viandard, là-dessus je vais pas me cacher, pour autant c'est pareil, à partir du moment où on favorise le local, je pense qu'on fait un grand pas, donc je te dirais là-dessus steak frites, mais par contre avec pas une viande qui vient de l'autre bout du monde et une viande qui soit respectueuse de la traite animale aussi.
Yes, et puis pas de tomates en hiver quoi.
Voilà c'est ça.
Et dernière question, avant de dormir, t'es plutôt Netflix ou un bon bouquin ?
Ça dépend. Je te dirais un beau bouquin, mais qui ne m'empêcherait pas, s'il est adapté sur Netflix, de pouvoir suivre la série aussi.
Canon. Est-ce que tu as des sources d'inspiration, d'ailleurs, est-ce que tu auras envie de nous partager, de lecture, d'écoute, voilà, sur toute cette démarche, sur ce qui peut t'inspirer soit au travers de Tranquille et Mille, soit à titre plus personnel ?
Non, alors sur Tranquille et Mille, pas spécialement, c'est-à-dire que nos sources d'inspiration, effectivement, on les a au quotidien, et les sources d'inspiration, ça va être aussi bien le patron de marque responsable, comme les petites mains qui sont derrière, c'est-à-dire que lorsque on se déplace dans un atelier, justement, sur lequel on permet à notre échelle de garantir l'emploi de personnes en situation de handicap, voir ces personnes travailler sur un produit Tranquille et Mille, c'est déjà une grande source d'inspiration. Et puis après, à titre personnel, ouais, je suis plutôt, plutôt sportif. Et du coup, toutes les grandes épopées sportives, ça, c'est des choses qui me font vibrer. C'est des choses de mon quotidien. Et que ce soit du sport collectif et notamment ben, sur du sport individuel avec le vélo, ça, c'est des choses qui me mettent une sacrée motivation. Et voilà. Et globalement, ça rejoint également ma passion ben, du coup, pour le vélo.
Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il me semble que Tranquille Emile soutient le skieur français Florian Loriot. C'est un moyen de promouvoir la marque.
Bah, c'est ça, en fait. Du coup, comme la marque a été créée à Megève et que l'on renie pas notre univers, on essaye justement, d'une part, de pouvoir accompagner des personnes qui correspondent à notre univers Tranquille Emile, l'univers des montagnes, l'univers de l'extérieur, de respirer frais, de prendre une bonne bouffée d'air frais, en tout cas, et de se poser. Et puis bah, aussi les jeunes talents qui méritent tout autant que d'autres à être connus, à être mis en avant. Et Florian, c'est quelqu'un pareil avec de très belles valeurs, de très forts engagements, et qui sont pas forcément les skieurs, les personnes les plus mises en avant aujourd'hui dans les médias. Donc voilà, c'est notre petite action à notre échelle, à notre niveau, justement, bah, de promouvoir la jeunesse, de promouvoir bah, les actions sportives. Hein. Et puis, comme je disais il y a 2 minutes, hein, moi, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose qui me fait bien vibrer. Donc, on est d'autant plus fiers et contents quand on voit ces résultats.
Et est-ce que pour nos auditeurs, pour les inciter à découvrir la marque La Petite Grenouille, tu voudrais nous partager soit un code promotionnel, soit peut-être, on en parlait, je crois, avant l'épisode, peut-être un tote bag offert pour une commande, histoire que tout le monde puisse être... inciter à découvrir cette super marque avec toutes ces belles valeurs.
Oui, et ben avec grand plaisir. Dans tous les cas, nous ce que l'on fait pour proposer justement bah, aux gens de découvrir le Made in France sur une première commande, on a toujours une petite offre incitative que je vous laisserai découvrir du coup directement sur tranquilleemile.net. Et puis on va voir justement avec Pauline pour vous permettre à tous ces gens de pouvoir recevoir leur commande dans un joli tote bag et qui leur permettra d'aller faire leurs courses et de ne pas acheter des tomates en hiver avec leur tote bag Tranquille Emile.
C'est canon, mais du coup, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode dans ce cas-là. Carrément. Pour les auditeurs de Communautaire. Bon, bah, c'est top. Merci beaucoup, Quentin, pour tout ce partage, pour ta vision quant à une consommation plus responsable, pour ton éclairage aussi sur les modes de production Made in France. Et puis, bah, bravo pour ton engagement à 360 degrés en faveur du savoir-faire hexagonal et puis aussi pour votre démarche inclusive. C'est top. Merci beaucoup.
Eh ben merci Pauline en tout cas pour cet échange, c'était vraiment top de partager tout ça avec toi et puis voilà, moi j'adore parler de ce qu'on fait, de ce qui se cache à Tranquille Emile et nos engagements, donc c'était un réel plaisir d'échanger avec toi.
Un plaisir partagé, merci beaucoup Quentin, à bientôt.
Salut Pauline.
Salut, ciao ciao.
Votre épisode communautaire est maintenant terminé, merci à tous pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous invite à noter ce podcast avec une note 5 étoiles ou un gentil commentaire sur Apple Podcasts, ça m'aide énormément à faire grandir la communauté. Partagez-le à au moins 2 personnes autour de vous et inscrivez-vous à la newsletter, je vous enverrai le prochain épisode par email. Vous pouvez vous rendre sur le blog www.communautaire.com pour retrouver les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.